Messieurs, on a la chance de recevoir, j'oserais dire, une légende de l'Omnium Banque Nationale parce qu'il est presque aussi connu que le tournoi. Il est connu pour être infoman, mais aussi pour faire ses capsules légendaires du tournoi à chaque année. Jean-René Dufort, merci infiniment de venir faire votre tour sur l'Omnium Banque Nationale.
Bien, c'est un plaisir, n'importe quand, parler de la meilleure discussion qu'on ne peut pas avoir à tennis.
Ah ben ça, c'est vrai, c'est pas mal plus facile que de... C'est plus le fun, je trouve, que de jaser de politiciens ou de faire des revues de presse, là, peut-être.
Voilà.
Et ça vient d'où, justement, cette passion-là du tennis, Jean-René? Ça remonte à où et comment ça s'est développé au fil des années?
Ben moi, ça a été long. J'ai toujours trippé sur le sport, mais ça a été avant que je le pratique. Moi, je suis né à Saint-Jérôme, une petite ville où il y avait deux sports. Il y avait l'été, le baseball, et l'hiver, le hockey. Et on jouait au baseball pour le hockey. Puis il n'y avait aucun autre sport sur Terre dans notre tête. Et à un moment donné, j'ai fait une grosse pneumonie. Puis je me suis dit, bon, ça me prend un sport pour me remettre sur pied. Et j'ai décidé, je vais y aller avec le tennis. Parce que le tennis, c'était pour moi... je trouve que ça peut être bien pépère, mais ça peut aussi être bien cardio. Tu sais, tu peux y aller à la vitesse que tu veux. Et j'ai commencé à le pratiquer à peu près, je dirais, 15 ans. Mais le tennis comme tel, ça a toujours été un sport que j'ai adoré parce que contrairement au hockey, tu ne peux pas, en tant que défenseur, dire ben, pendant la game, passez-moi pas trois pocs, ça ne me tente pas. Si ça ne te tente pas au tennis, 10 minutes après, tu es dans l'avion pour le prochain tournoi. C'est un sport qui ne pardonne pas. C'est un sprint en même temps qu'un marathon. C'est extrêmement, comment je pourrais dire, psychologique. C'est un sport qui se passe énormément entre les deux oreilles. C'est d'ailleurs très drôle de voir et très rassurant de voir des grands, comme je ne sais pas, Nadal, Federer, arriver, puis une journée, bizarrement, leur service ne marche plus. Là, tu dis, waouh, comme moi, la fin de semaine passée. Sauf que eux, ça fait depuis qu'ils ont 6 ans qui pratiquent leur service à chaque journée. Donc, tu vois, c'est un sport de mémoire musculaire. Un petit grain dans l'engrenage peut tout scraper. Je trouve que c'est vraiment le sport le plus complexe qu'il n'y a pas. Et d'aller voir du tennis, pour moi, c'est fantastique parce que c'est un sport qui est très liturgique. C'est un des seuls sports où il faut que tu fermes ta gueule, il faut que tu regardes. Et il faut vraiment que tu sois attentif. Et quand le coup est fait, oui, tu peux applaudir, mais il y a vraiment une espèce de... C'est presque méditatif, là. On ne fait pas de bruit, il va faire son service. Et tous les aspects du tennis me fascinent.
Est-ce que ça veut dire que dans des cas, par exemple, de Coupe Davis, de Fed Cup, où l'ambiance est un peu plus à celle qui ressemble à un match d'hockey, par exemple, c'est moins ton genre un peu ou pas nécessairement?
Non, mais moi, c'est mon genre. Mais j'aime la discipline, ou des fois, il y a un manque de discipline, mais la discipline du public qui savent quand sauter au plafond et qui savent quand se retenir un peu. C'est sûr qu'il y en a de temps en temps quelqu'un qui part à crier « I love you, Raphaël », mais on peut y pardonner.
Ça a parti de où, c'est les chroniques ou les capsules, je dirais, pour Tennis Canada à l'Omnium? Quand est-ce qu'on faisait faire ça? Puis est-ce que c'est votre équipe qui a pitché le projet ou c'est Tennis Canada qui vous a approché pour faire ces capsules-là?
Non, ça a débuté il y a 10-11 ans. On m'a approché pour être porte-parole du tournoi. Et normalement, les porte-paroles sont là, présents. Et moi, je me disais, tant qu'à être porte-parole, je veux faire quelque chose que j'aime faire. Donc, j'ai proposé, en plus d'être porte-parole, de faire des capsules qui vont être présentées sur l'écran géant pour le public. Parce que je trouvais que ce qui est le fun avec le principe d'être porte-parole du tournoi, c'est comme si la ville accueillait les joueurs. Donc, je me suis dit, pourquoi pas accueillir physiquement les joueurs et les taquiner un petit peu, m'amuser avec eux pour qu'il y ait vraiment cette rencontre-là entre Montréal, le Québec et les joueurs. Puis ça a parti comme ça. Et la première année, ça a super bien fonctionné. Et les autres années, à chaque fois qu'ils nommaient un autre porte-parole, qui lui faisait du PR, ben moi, il me rappelait pour s'attendre de continuer à faire les capsules. Donc, j'ai comme fait le travail de toutes les PR, les porte-paroles pour le reste de l'année, le reste des 10 ans. Mais j'adore ça parce que je trouve que c'est vraiment, c'est ça, le principe de, c'est un tournoi annuel, c'est pas une saison comme d'autres sports. Et donc, c'est une rencontre annuelle. Et nous, c'est différent parce que c'est une alternance en plus. On voit les gars une fois ou 2 ans, les filles une fois ou 2 ans. Donc, la rencontre est d'autant plus importante. Donc, c'est le fun qu'il y ait une représentation physique de cette rencontre-là sur écran.
Hugues, tu voulais enchaîner?
Oui, tout à fait. Puis je pense que tes interventions sont un des ingrédients qui font le succès du tournoi. Cette relation intime entre le sport, mais le culturel, les médias et tout ça, on parlait avec Mistress Barbara qui a fait la musique d'arrivée des joueurs. Sur le central. Puis je pense que tout ça, tous ces petits ingrédients-là font que les gens sont vraiment attachés au tournoi. Mais je voulais te parler de ta relation avec les joueurs. Il y a eu des moments cocasses, évidemment. Là, je pense à la relation avec Djokovic, notamment quand il t'avait fait le petit coup de l'antivibration. Je ne sais pas si c'est en 2000, je pense, ça fait une couple d'années. Mais parle-nous un peu de ta relation avec tes joueurs. Est-ce que tu as quelques anecdotes ou des joueurs que tu affectionnes particulièrement?
Ben oui, mais je leur explique toujours au début que je ne suis pas un journaliste comme les autres ou je ne suis pas là pour leur extirper des scoops ou juger de leur performance. Je suis là pour les accueillir, les saluer, puis leur poser une ou deux questions de tennis ou m'amuser avec un aspect de leur carrière. Fait que ça, ils comprennent assez vite. Il y en a qui sont très bons joueurs. Oui, Djoko, qui est assez... point de vue blague ou humour, quand tu y en envoies une sur la palette, il n'y arrête pas. Et ça, c'est arrivé naturellement la première fois que je l'ai rencontré. C'était notre première capsule, ça, quand il m'a fait le joke de la raquette dans les parties. Et c'est très drôle parce que ça a tellement pogné que je pense que c'est mon plus beau, ma plus belle carrière internationale, c'est grâce à lui. Parce qu'on a fait le téléjournal du Vietnam avec lui. Avec la capsule, puis généralement, encore, elle se promène, puis je la vois ressurgir un peu partout.
C'est très drôle. Ouais.
Puis en même temps, c'est vraiment ce côté chaleureux-là que je veux, et je pense qu'ils comprennent assez vite ce côté taquin-là, puis on dirait que c'est... Ils relaxent un petit 5 minutes, parce que, tu sais, moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. T'sais, après avoir quitté ici, ils vont aller, je ne sais pas moi, à Cincinnati. Après ça, tu sais, eux, la horde de journalistes, ils la rencontrent à chaque semaine. Ils sont chaque semaine sous les feux de la rampe. Explique pourquoi tu as performé. Explique pourquoi tu as moins performé. Fait que j'essaie de leur donner un petit 5 minutes de break en m'amusant avec eux. Puis, il y en a qui sont très drôles. Surprenamment, Raphaël Nadal il est tellement timide, mais dès que tu passes à côté de ça, tu rencontres quelqu'un de vraiment hyper sympathique. C'est drôle parce que quand les gens me rencontrent, ils me posent des questions sur... je reste dans un quartier d'anglais et personne ne me connaît pour Infoman. Ils me disent « Hey, you're the Roger Cup or the Omnium Banque Nationale guy. » Je suis connu pour ça, mais j'ai perdu le fil. Je parlais de Raphaël Nadal. Oui, c'est ça, il me demande toujours, Raphaël Nadal, y es-tu hautain? Y es-tu plate? Non, c'est le gars le plus sympathique qu'il n'y a pas, mais il est tellement timide, il regarde à terre quand il marche, mais on le voit, il ouvre la porte à tout le monde. Andy Murray, j'ai eu beaucoup de plaisir avec lui à jouer à Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, parce que je me suis rendu compte que c'était vrai que lui, il veut perdre à rien, parce que l'idée venait d'un espèce de T-shirt qui se promenait, il se pratiquait avec son T-shirt, c'était écrit Prepare, attack, destroy. Puis je disais, hey, tout est un tough. Hein? Puis il est drôle parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux avec son chien. Il a quand même un flegme, mais un sens de l'humour britannique très développé. Ouais. Puis ça, j'avais joué là-dessus. Et la face qu'il me faisait, les yeux, le regard, ça m'a vraiment fait peur. Il ne voulait pas perdre. Il a gagné, j'ai eu ma claque. Les filles aussi sont. Écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir avec Sharapova, Venus Williams. Mes deux grandes défaites, c'est que j'ai jamais pu rencontrer ou faire quelque chose avec Serena et avec Roger Federer.
Et Jean-René, je dois dire de un que je suis en direct de Saint-Jérôme et qu'en tant qu'ancien de la polyvalente Saint-Jérôme, je vous salue bien bas. Même si là, j'ai l'air d'un délateur à enquête là, à cause de l'éclairage, mais ça, c'est autre chose. Est-ce que tu mentionnes, lorsque tu rencontres des athlètes, notamment, je pense à Denis Shapovalov, je pense que c'était lors d'une revue de fin d'année, notamment, est-ce que tu leur mentionnes que tu es un fan de tennis? Si oui, est-ce que tu penses que ça aide à la relation pendant l'entrevue?
Oui, ça, c'est certain qu'on parle tennis avant l'entrevue. Shapovalov, je l'ai rencontré pour la première fois pour le spécial de fin d'année d'Infoman, où c'était l'année où il avait brisé, il avait gagné tout. Là. Puis je voulais, puis nos deux autres équipes à Montréal, l'Impact, même les trois, l'Impact, les Alouettes et le Canadien avaient très mal été. Fait que je lui disais, la solution, c'est qui joue. qui joue pour toutes les équipes. Fait que j'avais apporté des chandails de toutes les équipes et on va le prendre partout, comme ça on va être sûr de gagner quelque chose. Puis il s'amusait beaucoup, mais je l'avais rencontré à CBC à Toronto. Il savait qui on était, qu'est-ce qu'on faisait. Mais oui, c'est sûr que quand je rencontre des joueurs de tennis à Infoman, je leur parle de ça, mais souvent je les ai rencontrés avant au tennis. Donc, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on tisse des liens comme ça. Donc, ça fait longtemps que maintenant, ils savent de funny guy from Montreal. Oh, yeah, I remember you. C'était une relation aussi qui s'établit au fil des ans parce que c'est très drôle. Il y avait, je pense, c'était Djokovic qui avait arrêté la deuxième fois où il m'arrosait. Ou en tout cas, je ne me rappelle plus une des capsules, il avait demandé aux organisateurs de ne plus passer sa capsule quand il était sur le terrain parce qu'il riait trop puis ça le dérangeait. les joueurs aussi voient le résultat des capsules en étant dans le stade. Puis, donc, ils voient le résultat. Puis ils voient Isner, quand j'y avais... c'était très simple. Ce que j'avais fait avec Isner, c'est que je voulais faire une entrevue où on ne le voyait jamais parce qu'il est tellement grand. Puis à la fin, il faisait juste se pencher. Puis « Thank you very much, Jean-René ». C'était tout simple, mais c'était super sympathique. Puis je trouve que, tu sais, on voit souvent les joueurs dans le sport. On voit leur générosité souvent par réseaux sociaux. On voit leur générosité par ce qu'ils font. T'sais, on voit souvent les joueurs du Canadien qui vont à Sainte-Justine, des choses comme ça. Mais c'est rare qu'on les voit parmi nous. C'est-à-dire que c'est même à Montréal, c'est rare qu'on voit un joueur du Canadien. Mettons, tout le monde en parle. Mettons, quelque chose. Fait que j'essaie toujours, dans tout ce que je fais, d'essayer de favoriser cette rencontre-là, c'est-à-dire de et c'est très apprécié du public quand parce que les Montréalais, quand ils voient ces capsules-là, ils ont l'impression que les joueurs, non seulement viennent jouer chez eux, mais ils ne jouent pas en vase clos. Ils parlent aussi aux Montréalais.
Moi, j'ai deux autres questions. Première des choses, après 10 ans, comment on fait pour se renouveler? Parce qu'à un moment donné, moi, je sais, pour avoir travaillé en télé et avoir fait des centaines de reportages, des fois, j'avais l'impression de faire 3 fois le même reportage une fois après à chaque année là, sur à peu près le même sujet. Fait que comment on fait après 10 ans pour ne pas faire des capsules qui sont répétitives?
Bien, je dirais que la pandémie a aidé à attendre un peu avant d'en faire d'autres. Donc, c'est sûr que cette année, on n'a pas pu en faire. L'année passée, non plus. On verra pour le futur. Mais c'est la même chose qu'à Infoman. C'est de simplement suivre qu'est-ce que le joueur fait dans l'année puis d'aller tirer une petite affaire. Tu sais, il y a une année où, je ne me rappelle plus quel joueur, c'était-tu Kyrgios qui avait sacré un coup de raquette ses bouteilles d'eau à Nadal, là, puis les bouteilles étaient tombées parce qu'il les place maladivement. Et là, il était en maudit. Et là, j'avais tapé ça, j'avais pris des rondelles de hockey, de la poche de hockey de mon gars, puis j'avais tapé une espèce de socle à ses bouteilles pour que ça soit impossible de les renverser. Puis j'ai donné ça, puis il avait trouvé ça très drôle parce que ça va t'empêcher d'être déconcentré. Fait que ça, c'était la petite affaire qui s'était passée cette année-là que j'avais utilisée. Donc, j'essaie toujours d'aller chercher dans l'année ou dans ce qui se passe au tournoi quelque chose comme ça. Mettons l'exemple parfait ce soir. La joueuse qu'Andreescu va affronter, ben bizarrement, son dernier match, il y avait pas mal de supporters de la Turquie qui étaient là. Peut-être jouer là-dessus avec Andreescu, faire une petite capsule, ou c'est-à-dire, on va t'en trouver une autre, d'autres supporters, ou essayer de jouer un peu sur ça. Fait que j'essaie toujours d'aller chercher une petite affaire. La dernière fois, où les gars sont venus ici. Il y avait Federer qui a passé à un cheveu d'être là, puis finalement, il a dû se retirer du tournoi. Il était là, je pense, 24 ou 48 heures. Puis j'avais construit une marchette, parce qu'il est rendu vieux, mais une marchette avec pour tenir ses balles, puis tenir sa raquette de tennis. Puis là, j'étais prête. Là. J'avais tout fait ça parce qu'il n'arrêtait pas de parler de retraite. Puis lui, il haïssait ça. Comment je pourrais dire, de parler de
retraite, il ne le faisait jamais.
Il n'aime pas ça entendre qu'il est vieux. D'ailleurs, il n'est pas vieux. Il est peut-être vieux pour le tennis, mais il n'est pas vieux dans la vie. Fait que je voulais un peu le taquiner là-dessus. D'ailleurs, je pense que la marchette traîne encore dans le bureau de Valérie Tétrault, si jamais il la veut.
Et on sait que la plupart des capsules, bon, c'est des francs succès. En tout cas, moi, je suis un fan de les trois. Je pense qu'on est fan. Mais est-ce qu'il y a déjà une capsule qu'un athlète n'a pas aimé,
ben,
qu'il te l'a fait savoir.
Pas qu'il n'a pas aimé, mais je te dirais, j'en ai fait une avec Kyrgios qui a été... Ça, il ne tentait pas. Fait qu'il a juste comme rien fait à côté. Ça aurait été bon à Infoman pour taquiner un joueur, mais je me dis au tournoi, je ne suis pas là pour les planter au raid 2. Je suis là pour les accompagner. J'ai juste pris le tape et je l'ai... Je lui ai sacré au vidange en disant ben, peut-être l'année prochaine, ça y tentera plus. Mais je te dirais, en général, ça a pas mal, à 99 % été très sympathique. Les joueurs embarquent. Même, tu sais, généralement, on a droit à, je sais pas moi, 15-20 secondes sur la passerelle. Ils passent, c'est comme la saucisse, là. Ils passent je sais pas combien de médias du monde en même temps, puis tu as 15 minutes ou rien. Il y a des fois où on a demandé aux joueurs, ben, on pourrait-tu faire ça ailleurs? Milos Raonic, quand j'avais demandé de me tirer un service, je me mettais une espèce de pot de balle, de peau de balle sur la tête, là, en disant, avec mon casque de hockey, puis je voulais voir s'il y avait vraiment du visou avec son tennis, son service, en disant, t'es puissant, mais t'es-tu précis? Là, il s'était amusé avec ses balles à me tirer sur le casque. Puis j'avais dit, retiens-toi pas. Il s'était amusé, pas de trouble. Donc, il ne demande qu'à ça, jouer et se divertir dans des périodes de stress comme ça. Il faut savoir quand les prendre, parce qu'il y a des moments où ils sont dans leur bulle, c'est pas le temps de les achaler. Mais il y a des moments où ils sont très joueurs puis ils ont beaucoup de plaisir. La grande majorité sont extrêmement sympathiques, gars ou filles.
Oui, ben, la plupart des athlètes professionnels, de façon générale, c'est des gens assez posés, assez terre-à-terre. Là. Les gens peuvent penser que c'est des grosses têtes ou des grosses vedettes, là, mais pour l'essentiel, là, c'est des gens assez terre-à-terre parce que c'est tellement difficile de se rendre à ce niveau-là. Et Jean-René Dufault, oui, tu allais peut-être ajouter quelque chose?
Non, mais je voulais juste ajouter que aussi, avec Radio-Canada, souvent, depuis plusieurs années, je vais aux Olympiques. Donc, j'ai une bonne expérience avec les athlètes. Moi, je les appelle toujours mes beaux fous. Puis, parce qu'on fout. Pour être malheureux d'avoir une médaille d'argent quand tu es arrivé en plongeon, puis être en maudit, puis la prochaine fois, j'ai une médaille d'or, ça prend une belle folie, tu sais, d'être capable de te motiver pendant 4 ans de lancer un javelot alors que tu n'auras jamais de commandite. Puis, tu sais, tout simplement pour le dépassement de soi-même, c'est d'une beauté humaine incroyable. La même chose pour les joueurs de tennis. Je m'amuse beaucoup avec cette connaissance-là que j'ai de l'athlète. Tu sais, quand souvent, tu regardes, là, ils ont 3 balles dans les mains, là, puis là, ils sont en train de penser laquelle ils vont rejeter, puis laquelle ils vont avoir droit d'être l'élu du service. J'aime ça leur demander, qu'est-ce que tu checkes? C'est quoi qu'est-ce qui t'énerve dans une balle ou qu'est-ce qui fait que tu la discartes ou pas? Et là, c'est sûr que ça marche parce que tu touches un peu à leur folie. Ils pourraient t'expliquer pendant 10 minutes exactement ce qui les énerve d'une balle. Et puis, tu sais, des fois, quand la balle a touché le filet, ils ne veulent plus parce qu'elle est en punition. Puis, donc, c'est ce petit côté belle folie sportive que j'aime beaucoup.
Et Jean-René, le fan de tennis, est-ce qu'il a du temps pendant l'année, parce que c'est un rythme infernal, là, Infoman, j'imagine, de regarder quand même des matchs? Et est-ce que tu enregistres les matchs? Ça ressemble à quoi l'horaire tennis de Jean-René Dufault?
C'est sûr que je regarde le plus de matchs que je peux. Quand il y a un tournoi à la télé, c'est le fun. Parce que c'est un peu comme les Olympiques. Tu peux t'abonner. C'est pas juste à soir. C'est ce soir, puis après ça, demain, puis après ça, en fin de semaine. Tu sais, c'est comme une intrigue que tu peux suivre. C'est ça que j'adore des tournois. D'ailleurs, ça me fait beaucoup rire quand il y a des têtes de série qui tombent en premier, parce que je trouve ça très drôle là, que le public ou nous tous, on s'attend à ce que le premier batte le deuxième, puis après ça, le troisième se fasse battre par... on fait toujours notre ordre établi du tableau, puis quand il y a des choses... qui se passent, qui ne sont pas prévus, on est comme en panique en disant, mais là, Simona Halep, elle a perdu. Ben oui, mais c'est ça qui est beau d'un tournoi. Il y a plein de surprises. Puis moi, qui ai quelqu'un de très connu, enfin, quelqu'un d'inconnu, j'ai autant de fun. C'est l'espèce de petit téléroman de la semaine qui s'est passée. Donc, j'essaie toujours de le regarder un peu comme un téléroman. Je ne regarde pas une soirée. C'est pour moi, c'est une petite mini-série qui dure une semaine.
Merci beaucoup, Jean-René Dufort, pour cette longue entrevue au podcast sur la ligne de l'Omnium Banque Nationale. Félicitations pour ce que vous faites, toi et ton équipe à l'Omnium, à la Coupe Rogers, slash Coupe Rogers depuis des années. C'est absolument fantastique. Et merci pour le travail autour du tennis.
Bien, merci à Tennis Canada. C'est eux l'idée, la permission de faire ça. C'est à eux que les bravos reviennent aussi beaucoup. Et c'est toujours le fun d'aller là parce que, tu sais, moi, je dis toujours à la blague, il n'y en a pas de pas bonne là, ou de pas bon au tournoi. Tu sais, quand tu es 228e au monde, là, l'équivalent de la Ligue nationale, c'est quand même sur 2-3e trio parce qu'il y en a 700 joueurs dans la Ligue nationale. Donc, ouais. Dans ces tournois-là, des pas bons, des pas bonnes, il n'y en a pas.
D'ailleurs, il y a une capsule, je m'apprêtais à fermer l'entrevue, mais il y a une capsule que tu as fait avec Vacek Pospisil qui m'a inspiré.
Oui.
Il faudrait que je revoie le timeline, mais je ne suis pas mal sûr que ça m'avait inspiré un reportage par la suite. Tu lui avais fait remarquer que s'il avait été, par rapport à son classement, bref, il aurait fait 5-6 millions par année dans la Ligue nationale de hockey. Et moi, par la suite, je me suis dit, aïe, c'est tellement vrai. Ça veut dire que les joueurs à l'extérieur du top 100, là, ils vivent à peine de ça. Puis pourtant, Colin, ils sont parmi les plus grands athlètes de leur sport. Puis j'avais fait par la suite un reportage sur Valérie Tétrault, mais je ne suis pas mal sûr que c'est ce qui avait, entre guillemets, trigger l'idée dans ma tête, là, ce qui avait commencé l'idée de reportage.
Là. Non, mais je trouve que c'est important de valoriser, de faire comprendre la difficulté d'être un joueur de tennis. Parce que oui, c'est facile pour les 20 premiers, mais comme tu le dis, après, ça devient beaucoup plus difficile. Et aussi, l'affection du public devient aussi difficile. Tu sais, si tu es 400e au monde, tu n'intéresses personne, alors que ce n'est pas vrai. Les qualifs, c'est les meilleurs au monde. Et moi, je reviens tout le temps avec l'exemple de la Ligue nationale de hockey. Il y a 700 joueurs dans la Ligue nationale de hockey. Au tennis, le 700e, il serait dans le 4e trio d'une équipe nationale, de la Ligue nationale de hockey. Ce n'est pas rien. Alors, il faut pas avoir peur d'aller voir les qualifs, d'aller voir les premiers matchs. Il n'y en a pas de pas bons, là. Puis les surprises, ils viennent souvent de là. Et parce que c'est tough être joueur de tennis. C'est sûr que quand tu es le numéro un, tu as des beaux hôtels et tu as des avions privés. Mais pour arriver là, il y a eu beaucoup d'abnégation depuis que tu as à peu près 6 ans. Donc, c'est tes parents se sont privés. Toi aussi, tu as vécu une vie de moine. Puis souvent, tu n'arrives même pas là.
Puis c'est pour ça qu'on invite tout le temps les gens à aller voir. Tu sais, les qualifs à Montréal, là, le niveau de jeu est incroyable parce que, bon, d'un, c'est un plus petit tournoi que Indian Wells et Miami ou les Grands Chelems, ce qui fait en sorte que les qualifs sont beaucoup plus relevés que dans d'autres tournois. Et puis, c'est gratuit, les qualifs, la fin de semaine, de façon générale. Et c'est un spectacle sportif de ce niveau-là, à ce prix-là, ça n'existe nulle part dans le sport professionnel, ça, c'est sûr.
Et tu peux être à quoi? 2 mètres, 3 mètres du terrain? C'est incroyable. Tu entends la balle siffler quand elle spin. Là. Ça, c'est impressionnant. C'est là que tu vois à quel point... Parce que des fois, je trouve ça dommage. La télé ralentit beaucoup le jeu. Tu n'as pas l'impression que ça va aussi vite. Quand tu arrives pas loin du terrain puis tu vois à quel point la balle a spin... La balle, elle remonte super vite. T'sais, l'effet dans la balle, on la voit beaucoup plus en présence. Et c'est là que tu remarques, tu dis, OK, c'est pas juste de retourner une balle. C'est d'être capable de retourner une balle de ces excellents joueurs-là. Là, c'est, quand tu le vois de proche, tu comprends à quel point ça demande une maîtrise. Puis, tu ne peux pas penser à ta liste d'épicerie quand tu joues au tennis à ce niveau-là. Il faut que tu sois concentré. Puis, la balle arrive assez vite.
As-tu visité des terrains de tennis un peu à l'extérieur de Montréal, à l'international un peu?
Non, malheureusement, je n'ai jamais eu cette chance-là. Comme tout le monde, j'ai le rêve d'aller à Wimbledon ou un peu partout, mais j'ai jamais eu le temps. J'ai un horaire un peu compliqué, puis je te dirais que plus tard, ça va être certainement une possibilité, parce que d'aller voir les tournois ailleurs aussi, ça peut vraiment, tu sais, différentes ambiances, différentes façons. Je suis très jaloux d'Eugène Lapierre qui fait ça beaucoup. D'ailleurs, je le dis ouvertement, après Infoman, c'est sa job que je veux. Quand il va prendre sa retraite, là, je vais postuler. Moi, c'est ça que je veux faire. C'est
bon. Bien, ça sera bon. On aura déjà le contact. Comme ça, si on veut travailler autour du tournoi, on va déjà avoir le contact de Jean-René Dufort. Jean-René, merci infiniment d'avoir même prolongé cette entrevue-là. Valérie nous avait promis 10-12 minutes. Je pense qu'on a fait pas loin d'une demi-heure. Là. Ça, c'est une émission complète d'Infoman. Merci infiniment. Merci pour tout. Et puis, tu reviens nous jaser de tennis quand tu veux. On va te prendre à chaque fois que tu veux venir nous parler.
C'est un plaisir, et ça me fait plaisir de ne pas toujours écouter Valérie, moi aussi.
Merci beaucoup. Bye-bye.
Merci, Jean-Louis. Bye. Salut.